Chapitre 2. La facture du boucher. Au début, Perrine ne regarda pas en direction de l'endroit vers lequel il allait chevaucher, et où il aurait dû accompagner Rand dès le lever du soleil. S'immobilisant la lisière du cercle de chariot, il balaya au contraire le paysage du regard. Partout sauf là. Mais tout ce qu'il voyait lui flanquait la nausée. On eût dit qu'on le frappait au ventre avec un marteau. Premier coup. 90 tombes fraîches alignées au sommet d'une butte, à l'est. Autant de gars de deux rivières qui ne rentreraient jamais chez eux. En règle générale, un forgeron voyait rarement des gens mourir à cause de ses décisions. Au moins, ses hommes lui avaient obéi. Sinon, il y aurait eu encore plus de tombes. Deuxième coup. Des rectangles de terre récemment retournés sur le versant de la colline suivante. Plus de 100 gardes ailés et encore davantage de Kyrieniens venus au puits de Doumaï pour mourir. Les causes, sans importance. Eux aussi suivaient Perrine à Ibarra. Troisième coup. Sur cette colline-là, les sépultures se touchaient. Un millier d'aïels, inhumés debout, pour voir le soleil chaque fois qu'il se lèverait. Un millier. Et bien sûr, il y avait des promises parmi les morts. Voir tomber des hommes nouait l'estomac de Perrine. Quand il s'agissait de femmes, il avait envie de s'asseoir sur le sol et de pleurer. Bien sûr, tous ces disparus avaient choisi de venir. C'était leur devoir, comme on disait. Rien de tout ça n'était contestable. Mais qui avait donné les ordres? Lui. Pas Rand, et pas plus les Aes Sedai. C'était lui le responsable. Les Aiel survivants venaient à peine de cesser de psalmodier un chant funèbre lancinant que Perry ne parvenait pas à chasser de son esprit. Cette existence n'est qu'un rêve qui ne connaît pas d'ombre. Cette existence n'est qu'un rêve mélancolique et sombre. Un rêve qu'il nous faut quitter, dont nous libère le réveil. Un rêve qu'il nous faut quitter quand finit le sommeil. Qui donc pourrait dormir alors qu'attend l'aube nouvelle? Qui donc pourrait dormir alors que la brise est si douce? Un rêve est terminé quand se lève l'aube nouvelle et qu'il faut s'éveiller pour partir où le vent nous pousse. Les Aiel semblaient tirer quelque réconfort de ce chant. Perrine aurait bien aimé en faire autant, mais tout ce qu'il avait vu ou entendu laissait penser que ce peuple se fichait de vivre ou de mourir. Et ça, c'était de la folie. Tout être humain sain d'esprit voulait vivre et fuir à toutes jambes les champs de bataille. Oui, à toutes jambes. Trotteur inclina la tête en arrière, ses naseaux frémissant à cause de la puanteur qui montait du charnier. Pour le calmer, Perrine lui flatta l'encolure. Devant le spectacle qui terrorisait son seigneur, Aram souriait. Le visage de marbre, comme s'il était pétrifié, Loyal marmonnait dans sa barbe.
« Fasse la lumière que je ne vois plus jamais ça !» crut entendre Perrine.
Après avoir pris une profonde inspiration, il trouva enfin le courage de tourner lui aussi la tête en direction des puits de Doumaï. En un sens, ce n'était pas aussi déchirant que les tombes, celles de gens qu'il connaissait dans bien des cas depuis sa plus tendre enfance. Mais le choc fut épouvantable, la puanteur semblant soudain se transformer en un projectile qui venait de le frapper entre les deux yeux. Les souvenirs qu'il tentait d'oublier revinrent à la charge. Les puits de Doumaï avaient été le théâtre d'une boucherie incroyablement sanglante, une ignoble tuerie. Mais le lendemain, c'était encore pire. À moins d'un quart de lieue, les chariots carbonisés étaient toujours disposés en cercle autour du bosquet qui abritait les puits, tout autour. Ondulant par vagues frénétiques, une marée vivante de vautours, de corneilles et de corbeaux dissimulait le sol éventré par les explosions. Un fait dont Perrine se félicita. Adeptes de la plus féroce brutalité, les achamans avaient dévasté la chair et la terre avec une parfaite impartialité. Parmi les chaïdos, il y avait eu trop de victimes pour qu'on puisse les enterrer si vite, en supposant que quelqu'un se soit soucié de leur dépouille, et les charognards étaient à la fête. Les cadavres des loups gisaient eux aussi dans ce charnier. Perrine aurait voulu les inhumer, mais ce n'était pas la coutume de ses frères à quatre pattes. On avait aussi découvert les corps de trois Aes Sedai, que le pouvoir n'avait pas pu protéger des flèches et des lances, et ceux de six champions. Ces morts-là avaient été inhumés dans la clairière, près des trois puits. Les charognards n'étaient pas les seuls à grouiller parmi les cadavres. Bien au contraire, des amas d'ailes noires s'envolaient sur le chemin du seigneur d'Obraïn Taborwin et de 200 de ses cavaliers de Kaerien. Le seigneur Avienne Nourel était là aussi, avec tous ses gardes ailés survivants, à part ceux qui surveillaient les champions. Un fanion représentant deux diamants sur fond bleu signalait les officiers kaerieniens, à part d'Obraine lui-même. Et derrière les fiers cavaliers, les gardes ailés en armure rouge, lance brandie, suivaient le mouvement avec un grand panache. Mais d'Obraine n'était pas le seul, et de très loin, à se plaquer un mouchoir sous le nez. Tout au long de la colonne, des hommes se penchaient sur leur selle, tentant de vider un estomac qui ne contenait plus rien depuis longtemps. Presque aussi grand que Rand, Mazrim Taïm, à pied, se tenait bien droit dans sa veste noire ornée sur les manches de dragons bleus et or. Une centaine d'achamans le suivaient, et certains d'entre eux tentaient également de vomir. Des promises arpentaient le champ de bataille, ainsi que des Siswayamans, plus nombreux que les achamans, les kyrieniens et les hommes de Mayenne réunis, et des dizaines de matriarches. Tout ça en prévision d'une éventuelle contre-attaque des Shaido, ou d'une ruse. Certains des morts, toujours bien vivants, attendant une occasion de frapper. Mais se faire passer pour un cadavre au milieu de ce charnier aurait fait perdre la raison à n'importe qui. En tout cas, c'était l'opinion de Perrine. Bien entendu, tout le monde évoluait autour de Rand. Perrine aurait déjà dû être là avec ses gardes de rivière. Rand avait instamment demandé d'avoir des hommes de confiance du pays, mais son ami ne lui avait rien promis.
« Il devra se contenter de moi, et en retard qui plus est. »
Très en retard même, car il n'était pas encore disposé à forcer Trotteur à descendre dans ce qui le faisait penser à la cour d'abattage d'un boucher. N'était que les couteaux de boucher ne débitaient pas de la chair humaine en tranches, et qu'ils coupaient plus proprement que les haches de guerre, détachant la viande de l'os bien plus nettement que les charognards. Alors que les achamans en noir se fondaient dans la masse tout aussi obscure qui grouillait sur le sol et dans les airs, Rand restait parfaitement visible dans la chemise blanche en piteux état qu'il portait au moment de l'arrivée des secours. Enfin, des secours, façon de parler, puisqu'il s'était déjà libéré tout seul à ce moment-là. Quand il vit Mine près de Rand, Perrine ne put s'empêcher de faire la grimace. En veste rose pâle et pantalons serrés, la jeune femme ne semblait pas à sa place au milieu de cette horreur. Cela dit, qui aurait pu l'être au fond? Mais depuis la fin des combats, à l'instar de Taïm, elle ne quittait plus le dragon réincarné. La lumière seule savait comment, Rand était parvenu à se libérer, puis à secourir Mine, bien avant que Perrine et les achamans eux-mêmes pénètrent dans le bosquet. Désormais, la jeune femme ne devait plus se sentir en sécurité que sous l'aile de son sauveur. Tandis qu'il avançait au milieu des dépouilles, Rand tapotait le bras de Mine, ou se penchait pour lui parler à l'oreille. Mais elle n'était pas l'objet principal de son attention. Autour des deux jeunes gens, des nuages d'oiseaux tourbillonnaient. Alors que les plus petits charognards filaient sans demander leur reste, pressés d'aller festoyer ailleurs, les vautours ne cédaient pas facilement la place, certains refusant même de s'envoler. Gonflant leurs plumes, le cou tendu, ils reculaient, certes, mais continuaient à se repaître en criant de défi. De temps en temps, Rand s'arrêtait et se penchait sur une dépouille. Parfois, des lances de feu jaillissaient de ses mains pour carboniser les charognards récalcitrants. La chef des promises, Nandera, et son adjointe Souline, discutaillaient avec le jeune homme. Des matriarches se mêlaient par moments à la polémique, si on en jugeait par la façon dont elles tiraient sur la veste d'un mort, comme pour démontrer quelque chose. Rand acquiesçait et continuait son chemin, non sans regarder derrière lui cependant, et en s'arrêtant dès qu'un autre cadavre attirait son attention.
« Que fait-il donc ?»
demanda soudain une voix hautaine. À l'odeur, Perrine reconnut la femme qui marchait sur son flanc droit. Il baissa quand même les yeux sur Kiruna Nachiman. À la fois élégante et majestueuse dans sa robe d'équitation de soie verte, Kiruna était la sœur du roi Païtar et une puissante noble dame. Devenir une Aes Sedai n'avait eu aucun effet bénéfique sur son arrogance naturelle. Concentré sur ce qu'il était bien obligé de voir, Perrine n'avait pas entendu la sœur approcher.
« Que fiche-t-il ici? Il devrait être ailleurs. »
Toutes les Aes Sedai du camp n'étaient pas prisonnières. Cela dit, depuis la fin des combats, les sœurs libres ne se montraient pas. Et, Perrine l'aurait juré, elles passaient leur temps en messe basse afin d'essayer de comprendre ce qui était arrivé. Et peut-être de trouver un moyen d'inverser le résultat. À présent, ces femmes revenaient en force à la vue de tous. Bera Arkin, une autre sœur verte, marchait aux côtés de Kiruna. Malgré son visage sans âge et sa superbe robe, Bera avait tout d'une solide paysanne. Cette apparence rustique ne l'empêchait pas d'être aussi hautaine que Kiruna, à sa façon. le genre de paysanne capable de dire à un roi, et pas sur un ton fleuri, de s'essuyer les pieds avant d'entrer chez elle. Avec Kiruna, elle dirigeait les sœurs venues au puits de Doumaï avec Perrine. Ou peut-être exerçait le pouvoir en alternance avec sa compagne. Ce n'était pas très clair, comme très souvent avec les Aes Sedai. Les sept autres sœurs avançaient en groupe, un peu à l'écart. Une troupe de lionnes plutôt qu'un groupe, et qui n'hésitait pas à donner l'impression qu'elles dirigeaient tout. Leur champion les suivait. Ne prenant pas la peine d'imiter la fausse sérénité de leur protégé, ils ne faisaient pas mystère de leur hostilité. À part la cape caméléon, qui les aidait à se fondre dans le décor, ces hommes n'avaient guère de points communs. Mais qu'ils soient grands ou petits, minces ou enveloppés, tous semblaient à un souffle d'exploser, de la pure violence à peine contenue. Parmi les sœurs, Perrine connaissait bien Verin Matwin et Alana Mosvani. Petite et trapue, avec quelque chose de maternel, mais sans que ce soit volontaire, et quand elle n'étudiait pas les gens avec l'air d'un oiseau qui évalue un ver appétissant, Verin appartenait à la Jamaron. Mince, d'une beauté sombre malgré un regard quelque peu voilé ces derniers temps, pour une raison inconnue, Alana était membre de la Javert. Sur ses 9 sœurs, 5 étaient des vertes. Par le passé, Verin avait conseillé à Perrine de ne pas trop se fier à Alana, et il l'avait prise au mot. Cela dit, il n'accordait pas davantage sa confiance aux autres Aes Sedai, y compris Verin. Rand partageait cette méfiance, même si ses femmes avaient combattu à ses côtés, et en dépit de ce qui s'était passé à la fin des hostilités. Un événement que Perrine refusait encore de croire, même si c'était déroulé sous ses yeux. À 20 pas des sœurs, une bonne dizaine d'Achamans s'attardaient près d'un chariot. Ce matin, un type nommé Charles Gedwin commandait ce petit groupe, le genre du gars présomptueux qui parvenait à faire son petit coq même en dormant. Tous ces hommes portaient sur un côté du col une barrette en forme d'épée d'argent, et 4 ou 5, en plus de Gedwin, arboraient sur l'autre côté un dragon écarlate et or, délicatement émaillé. Selon Perrine, ces emblèmes avaient un rapport avec le grade de chacun de ces types, et il avait vu les deux sur quelques autres achamans, mais plutôt rares. Sans les surveiller officiellement, Charles et ses hommes s'arrangeaient pour n'être jamais bien loin des 9 sœurs, l'air de rien, certes, mais en gardant l'œil ouvert et le bon. En apparence, les sœurs ne se souciaient pas d'eux. Cela dit, elles semblaient en permanence sur leur garde, désorientées et très en colère. En partie, au moins, ce devait être à cause des achamans.
Alors, cette réponse ?
S'impatienta Kiruna. Elle ne devait pas avoir l'habitude qu'on la fasse attendre.
« Je n'en sais rien, »
mentit Perrine, tout en flattant de nouveau l'encolure de trotteur.
« Rand ne me dit pas tout. »
Il pensait avoir deviné, au moins en partie, mais il n'avait pas l'intention d'en parler. C'était à Rand de le faire, s'il le désirait. Cela dit, chaque corps qu'il étudiait était celui d'une promise. Perrine en était convaincue. Une Shaido, bien entendu. Mais comment savoir si ça faisait une différence pour Rand ? Pendant la nuit, Perrine s'était éloignée des chariots pour être un peu seule. Tandis que les cris des hommes heureux d'être encore en vie s'estompaient dans son dos, il avait avisé Rand. Assis sur le sol, les bras autour du torse, le dragon réincarné, qui faisait trembler le monde, se berçait comme un enfant. Pour des yeux comme ceux de Perrine, la lumière de la lune valait presque celle du soleil. En cet instant, il aurait préféré qu'il fasse une nuit d'encre. Les traits tirés, Rand avait le visage d'un homme qui aimerait hurler, ou peut-être pleurer, et qui lutte contre ce désir avec tout ce qui lui reste de force. Quelle que soit l'astuce que les Aes Sedai utilisaient pour ne pas être affectés par le climat, Rand n'y recourait pas, même s'il la connaissait, et les Achamans aussi d'ailleurs. Alors que la température nocturne aurait parfaitement convenu à une belle journée d'été, le dragon réincarné transpirait au moins autant que son ami. Malgré le bruit que faisaient les bottes de Perrine sur l'herbe sèche, Rand ne s'était pas retourné. Sans cesser de se bercer, il avait lancé.
« 151, Perrine. Aujourd'hui, 151 promises sont mortes. Pour moi, je leur ai promis de... Allons, ne discute pas avec moi. Tais-toi et va-t'en. »
Bien qu'il fût en sueur, Rand avait frissonné.
« Ce n'était pas à toi que je parlais, Perrine. Tu vois, je devais tenir ma promesse. Et tant pis pour la douleur. Je dois aussi tenir celle que je me suis faite. Et là aussi, tant pis pour la souffrance. »
Perrine s'était efforcée de ne pas penser au destin des hommes capables de canaliser. Les plus chanceux mouraient avant de perdre la raison, et les autres après. Que Rand appartienne à la première ou à la seconde catégorie, tout reposait sur lui. Absolument tout.
« Rand, je ne sais que dire, mais... »
Comme s'il n'avait rien entendu, Rand avait continué à se bercer.
Issan du clan Jara des Aiel Charin, morte pour moi aujourd'hui. Chonde du clan Crétépine des Miagoma, morte pour moi aujourd'hui. Aguirine du clan.
S'asseyant sur les talons, Perrine avait écouté son ami citer les 151 noms d'une voix tremblante de chagrin. En priant pour que le dragon réincarné, à la fin de cette litanie, n'ait pas sombré dans la folie. Mais que Rand ait ou n'ait plus toute sa raison, si une promise qui combattait pour lui avait été oubliée dans le charnier, on finirait par la retrouver et l'enterrer avec les autres. Et la liste s'allongerait d'un nom. Mais cette affaire ne regardait pas Kiruna. Idem pour les doutes de Perrine. Quoi qu'il en soit, Rand devait rester sain d'esprit. À peu près en tout cas. Et il fallait espérer que la lumière fasse en sorte qu'il en aille ainsi.
Et qu'elle me brûle de réfléchir si froidement à ce sujet.
Du coin de l'œil, Perrine vit Kiruna faire la moue. Ne pas tout savoir lui était aussi agréable que d'être forcée à attendre. Et ce n'était pas peu dire. Dans un style plutôt strict, elle aurait pu être belle, sans cette perpétuelle expression autoritaire. Les traits d'une femme habituée à obtenir ce qu'elle veut. Sans être pour autant irascible, mais sans jamais douter non plus du bien fondé de sa volonté et de ses exigences.
« Avec tant de corneilles et de corbeaux, » dit-elle, « il doit y avoir des centaines, voire des milliers d'espions, disposés à aller faire leur rapport à un Myrdraal. »
Comme si Perrine était responsable de la présence des oiseaux, Kiruna ajouta.
« Dans les terres frontalières, nous abattons à vue ces complices du ténébreux. Tu as des hommes, et ceux-ci ont des arcs. »
C'était la pure vérité. Chaque charognard était un espion potentiel au service des ténèbres. Mais Perrine eut soudain l'impression que le monde entier reposait sur ses épaules. Et il eut une terrible envie de vomir.
C'est exact. Et puis après?
Avec un tel nombre d'oiseaux, les hommes de Deux Rivières et les Aiel pouvaient décocher toutes leurs flèches sans éliminer la totalité des espions. 9 fois sur 10, il était impossible de dire si l'oiseau qu'on venait de tuer était un espion ou un simple charognard.
N'y a-t-il pas eu assez de morts? Très bientôt, il y en aura d'autres. Par la lumière! Femmes, même les achamans n'ont plus soif de sang!
Les sœurs qui observaient la scène se rembrunirent. Personne ne parlait ainsi à une Aes Sedai, pas même un roi ou une reine. Indignée, Béra jeta à Perrine un regard noir, comme si elle envisageait de l'arracher de sa selle pour lui flanquer une correction. Les yeux toujours rivés sur le charnier, Kiruna tira lentement sur le devant de sa robe. Les oreilles de Loyal frémissaient. Pour les Aes Sedai, il éprouvait une sorte de respect craintif. Pratiquement 2 fois plus grand que n'importe quelle sœur, il se comportait parfois comme s'il était une fourmi, qu'elle pouvait écraser sans s'en apercevoir sous leur semelle. Perrine ne laissa pas à Kiruna l'occasion de parler. Dès qu'on donnait un doigt à une Aes Sedai, elle voulait s'approprier tout le bras, et on pouvait se féliciter si elle s'arrêtait là.
Vous êtes resté loin de moi jusqu'à présent, mais j'ai quelque chose à vous dire. Hier, vous avez désobéi aux ordres. Si vous voulez appeler ça, changer le plan. Non, ne dites rien. Eh bien, allez-y, si ça peut vous faire plaisir. Mais n'imaginez pas que ça rend les choses moins graves.
Kiruna et les 8 autres avaient reçu l'ordre de rester avec les matriarches, à l'écart des combats et sous la protection des hommes de Deux Rivières et des gardes ailés. Au contraire, elles s'étaient jetées dans la mêlée, au milieu de combattants acharnés à s'éventrer avec une épée ou une lance.
Vous avez entraîné Avienne Nourel dans cette folie. Et la moitié de ces hommes l'ont payé de leur vie. Les Aes Sedai ne s'aventureront plus jamais à n'en faire qu'à leur tête. Je ne veux plus voir des hommes mourir parce que vous croyez soudain avoir une bonne idée. Et que le ténébreux emporte l'opinion des autres. Je me suis bien fait comprendre.
Tu as fini, paysan ?
Demanda Kiruna d'un ton dangereusement calme. Le visage qu'elle leva vers Perrine aurait pu être sculpté dans de la glace. Le visage qu'elle leva vers Perrine aurait pu être sculpté dans de la glace noire. Et bien qu'elle fût sur ses jambes et lui en selle, elle parvint à donner l'impression de toiser le jeune homme. Ce n'était pas spécifique aux Aes Sedai. Fail faisait très bien ce truc-là. Une spécialité féminine, sans doute.
« Je vais te dire quelque chose. Même si un esprit doté d'une étincelle d'intelligence ne devrait pas avoir besoin d'un dessein. À cause des 3 serments, une sœur ne peut pas utiliser le pouvoir comme une arme. Sauf contre des créatures des ténèbres, ou pour défendre sa vie, celle d'une autre sœur, ou celle de son champion. » Nous serions restés jusqu'à l'ultime bataille là où tu nous avais postés, sans avoir la possibilité d'intervenir. Pour ça, nous devions être en danger. Paysan, je n'aime pas justifier mes actes. Ne me force jamais à recommencer. C'est compris ?
Les oreilles de Loyal s'affolèrent. À l'évidence, il aurait préféré être n'importe où ailleurs qu'ici, y compris avec sa mère, qui entendait le contraindre à se marier. Alors qu'il essayait inlassablement de faire croire que les Aes Sedai ne l'impressionnaient pas, Aram en était bouche bée. L'air de rien, John Dean et Todd sautèrent de leur chariot. Si le vétéran parvint à s'éloigner d'un pas désinvolte, Todd courut et regarda plusieurs fois par-dessus son épaule. Les explications de Kiruna semblaient sincères, et elle était sans doute. Non, selon un autre des trois serments, elle l'était nécessairement. Mais il y avait moyen de s'arranger avec l'obligation de ne pas mentir. Par exemple, en ne disant pas toute la vérité, ou en la contournant. Les sœurs s'étaient sûrement mises en danger pour recourir au pouvoir, mais Perrine voulait bien manger ses bottes sans sel si elle n'avait pas eu également l'idée d'atteindre Rand avant tout le monde. Nul ne pouvait dire ce qui serait arrivé si les choses s'étaient déroulées ainsi. Mais le plan des sœurs, là encore, c'était sûr, n'incluait rien qui ressemble de près ou de loin à ce qui était réellement arrivé.
« Il approche !»
s'écria soudain Loyal.
« Regardez, Rand approche !»
Baissant le ton, il ajouta.
« Sois prudent, Perrine. »
Pour un ogier, c'était bel et bien un murmure. Aram et Kiruna avaient certainement entendu, et Béra peut-être aussi, mais c'était tout.
« À toi, les promises n'ont rien juré du tout. »
Loyal reprit son ton normal.
« Tu crois que Rand accepterait de me parler de ce qui s'est passé pour mon livre ?»
L'ogier écrivait un ouvrage sur le dragon réincarné. Pour le moins, il prenait des notes.
« Je n'ai pas vu grand-chose une fois le combat commencé. »
Immergé dans la mêlée, Loyal s'était battu aux côtés de Perrine, maniant une hache aux manches presque aussi longues qu'il était grand. Quand on tentait de rester en vie, il était dur de remarquer ce qui se passait à plus de 10 pas de soi. Mais si on écoutait Loyal, on avait toujours le sentiment qu'il était absent chaque fois que ça se mettait à chauffer.
« Kiruna Sedai, vous croyez qu'il accepterait ?»
Kiruna et Béra échangèrent un regard interloqué, puis sans un mot, elles filèrent retrouver Vérine et les autres. Sans les quitter des yeux, Loyal exhala un soupir digne d'un soufflet de forge.
« Oh, tu devrais vraiment faire attention, Perrine. Tu as parfois tendance à ne pas assez peser tes mots. »
On aurait cru entendre un bourdon de la taille d'un chat cette fois, pas d'un molosse. Donc, la cause n'était pas perdue. S'il passait assez de temps à proximité des Aes Sedai, Loyal finirait par apprendre à chuchoter. Afin de pouvoir entendre ce que disaient les sœurs, Perrine fit signe à l'ogier de se taire. Mais les Aes Sedai avaient dû invoquer une protection, car aucun son ne parvint jusqu'aux oreilles du jeune homme. À l'évidence, ce procédé fonctionnait aussi pour les Achamans, qui ne quittaient pas les sœurs du regard. Rien ne permettait de déterminer s'ils étaient liés aux Saïdin, la moitié masculine de la source authentique. Mais Perrine aurait parié trotteur que c'était le cas. Et à voir le rictus mauvais de Gidwin, il était décidé à utiliser le pouvoir contre les Aes Sedai. Celles-ci durent neutraliser leur protection, puisqu'elles se mirent à marcher en silence, les mains croisées, avant de se retourner pour regarder en silence le pied de la colline. Les Achamans s'interrogèrent du regard. D'un geste, Gidwin leur fit comprendre qu'ils pouvaient se détendre, même s'il était lui aussi déçu que ça se termine ainsi. Agacé, Perrine regarda Rand gravir la pente en compagnie de Mine, lui tapotant le bras tout en lui murmurant à l'oreille. À un moment, il éclata de rire, la tête inclinée en arrière, et elle l'imita, ses longues boucles brunes ondulant dans son dos. On aurait pu croire qu'il s'agissait d'un jeune fermier avec sa petite amie. N'était qu'il portait un ceinturon d'armes, les doigts de sa main venant de temps en temps s'assurer que la poignée de son épée était bien à sa portée. N'était aussi la présence de Taïm, sur son autre flanc, et les matriarches qui suivaient le mouvement. Sans parler des promises, des guerriers, des gars de Perrine, des Kérieniens et des gardes ailés qui complétaient la procession. Quel soulagement pour Perrine de ne pas être obligé de retourner dans le charnier. Mais il devait quand même prévenir Rand au sujet de l'hostilité qui commençait à régner entre toutes les communautés de guerriers. Et si son ami ne réagissait pas, qu'allait-il faire? Depuis le départ de Deux-Rivières, Rand avait beaucoup changé. Mais être enlevé par Coiraine et les autres semblait avoir accéléré le processus.
« Non, il faut qu'il soit encore sain d'esprit. »
Lorsque Rand et Mine furent entrés dans le cercle de chariots, la plupart des membres de l'escorte restèrent à l'extérieur. Cela dit, ils restèrent dotés d'une très substantielle suite. Le teint mat, le nez busqué, Taïm devait plaire à pas mal de femmes, aurait parié Perrine. Encline à se montrer directe, les promises ne s'étaient sûrement pas privées de montrer qu'elles ne faisaient pas exception à la règle. En entrant dans le cercle de chariots, le faux dragon repenti regarda Gidwin, qui hocha presque imperceptiblement la tête. L'ombre d'un rictus passa sur les lèvres de Taïm et disparut presque aussitôt. Nandera et Souline marchaient sur les talons de Rand, à une distance égale au quart de pouce près. et Perrine, en les voyant seules, s'étonna qu'elle n'ait pas emmené une vingtaine de promises. Quand Rand prenait un bain, ces deux femmes ne laissaient jamais la baignoire sans surveillance. Comment le dragon réincarné pouvait-il supporter ça? Les deux aïeuls portaient un choufa, qui dissimulait en principe leurs cheveux coupés courts, à l'exception d'une queue de cheval. Là, l'accessoire vestimentaire était abaissé sur leurs épaules. Mince mais musclée, Nandera arborait une chevelure blonde grisonnante. Plus que belle, elle était jolie, et ce malgré la dureté de ses traits. En pénétrant dans le cercle de chariots, les deux promises regardèrent les achamanes, l'air de rien, et étudièrent les deux groupes d'Aes Sedai. Puis Nandera utilisa le langage par signes secret de son ordre de guerrière. Comme d'habitude, Perrine regretta de ne rien y comprendre. Mais plutôt que d'enseigner ce code à un homme, une promise aurait préféré renoncer à la lance pour épouser un crapaud. Assise sur les talons, non loin de Gilwyn, une promise que Perrine n'avait pas remarquée répondit dans le même langage. Une autre fit de même. Jusque-là, elle semblait concentrée sur un jeu de ficelles, au point de ne plus voir le monde qui l'entourait. Amys entra en tête des matriarches, puis les entraîna à l'écart pour converser avec Soriléa et quelques autres, qui étaient également restés dans le cercle de véhicules. Malgré un visage trop jeune pour sa longue crinière blanche, Amys était une femme importante, deuxième après Soriléa, dans la hiérarchie des matriarches. Ses aïels ne recouraient pas au pouvoir pour qu'on ne les entende pas, mais six ou sept promises du camp vinrent les entourer, puis se mirent à fredonner. Certaines s'accroupirent, d'autres restèrent debout, chacune semblant ne se soucier que d'elle-même. De quoi induire un imbécile à penser qu'elles étaient là par hasard. Perrine songea soudain qu'il soupirait beaucoup, depuis qu'il côtoyait des Aes Sedai et des matriarches. Des promises aussi, d'ailleurs. Toutes les femmes, ces derniers temps, éprouvaient durement ces pauvres nerfs. Dobraine et Avienne, avec chevaux mais sans escorte, fermaient la marche. Le chef des gardes ailés avait enfin vu une bataille. Eh bien, serait-il si pressé de voir la suivante? Environ du même âge que Perrine, il semblait beaucoup moins juvénile que la veille du carnage. Avec le front partiellement rasé, une tradition chez les soldats du Kyrienne, Dobraine, un vétéran aux cheveux gris, n'avait rien d'un jeune homme, et il n'en était pas à sa première bataille. Pourtant, il semblait lui aussi avoir pris un coup de vieux. Et son équanimité ne paraissait plus être ce qu'elle avait été. Les deux officiers braquèrent les yeux sur Perrine. Dans d'autres circonstances, il les aurait attendus pour savoir ce qu'ils voulaient. Mais là, il se laissa glisser au sol, confia les rênes de trotteur à Aram et alla à la rencontre de Rand. D'autres personnes, constata-t-il, avaient déjà eu cette idée. Seuls Soulin et Nandera continuaient à garder le silence. Kiruna et Bera s'étaient mises en mouvement au moment où Rand entrait dans le cercle de chariots. En approchant, Perrine entendit Kiruna s'adresser sur un ton hautain à Rand.
« Tu as refusé une guérison hier, mais seul un aveugle ne verrait pas que tu souffres toujours. Même si Alana n'était pas prête à s'arracher à... »
Bera lui tapotant le bras, Kiruna s'interrompit, mais enchaîna presque aussitôt.
« Tu veux peut-être être guéri à présent ?»
Traduction, serais-tu par hasard revenu à la raison ?«
Le problème des Aes Sedai doit être réglé au plus vite, Karaka. »
dit poliment Amys, une seconde après que Kiruna se fût tue.
« Il faudrait nous les confier, Randaltor. »
ajouta Soriléa, au moment précis où Taïm prenait la parole.
« Il convient de régler cette affaire d'Aes Sedai, Seigneur Dragon. Les Achamans savent comment les contrôler. Les garder prisonnières à la tour noire serait très facile. »
Les yeux noirs légèrement inclinés de Taïm se tournèrent vers Kiruna et Bera. Stupéfié, Perrine comprit que le faux dragon repenti parlait de toutes les Aes Sedai, et pas seulement des prisonnières. Même si elles froncèrent les sourcils à l'intention de Taïm, Amys et Soriléa observèrent les deux Aes Sedai avec aussi peu d'aménité que lui. Kiruna gratifia Taïm et les deux matriarches d'un sourire pincé. Perrine eut l'impression de lire plus d'agressivité dans la mimique adressée au faux dragon. Pourtant, elle ne semblait pas avoir déjà deviné ses sombres intentions. Mais pour expliquer son hostilité, il suffisait que Taïm soit l'homme qu'il était.
« Dans les circonstances présentes, »
dit l'Aes Sedai,
« je suis sûr que Khoiren Sedai et les autres me donneront leur parole. Il n'y a donc plus de raison d'avoir... »
Tout le monde parla en même temps.
« Ces femmes n'ont aucun honneur !»
lança Amys, méprisante, en signifiant très clairement qu'elle ne faisait aucune différence entre les prisonnières et les autres.
Que pourrait valoir leur parole? Elles sont d'Atsang!
Dit Soriléa, comme si elle prononçait une sentence. Alors que Bera foudroyait du regard la matriarche, Perrine songea que ce mot devait appartenir à l'ancienne langue. Même s'il eut le sentiment qu'il aurait dû le connaître, ça ne l'aida pas à comprendre la réaction de l'Aes Sedai. Ni celle de Soulin, qui approuva du chef la déclaration de la doyenne des matriarches.
« Elle ne mérite pas mieux que... Seigneur dragon !»
intervint Taïm, d'un ton presque professoral.
« Tu veux sûrement que les Aes Sedai, toutes les Aes Sedai, soient confiées à des hommes à qui tu fais confiance et qui sont les plus qualifiés pour...
« Assez !»
cria Rand. Tous obéirent, mais avec des réactions différentes. Même s'il exhalait la fureur, Taïm prit un visage de marbre. Après avoir échangé un regard, Sorilea et Amys ajustèrent dignement leurs châles. Des statues de détermination. Elles savaient ce qu'elles voulaient et comptaient bien l'obtenir, Karakarn ou non. Kiruna et Bera se regardèrent aussi. Cet échange si lourd de sens que Perrine regretta de ne pas être en mesure de l'interpréter, contrairement aux odeurs. Devant ses yeux, il semblait y avoir deux Aes Sedai parfaitement sereines, se contrôlant à merveille et dominant tout ce qu'elles avaient l'intention de tenir en leur pouvoir à des lieux alentour. Son nez évoquait plutôt deux femmes tendues et presque mortes de peur, à cause de Taïm. Kiruna et Bera semblaient toujours croire qu'elles trouveraient un moyen de s'en sortir avec Rand et les matriarches, mais Rand et les Achamans les terrorisaient. Mine tira sur la manche de Rand. En très peu de temps, elle avait étudié tout ce petit monde, et son odeur exhalait presque autant l'angoisse que celle des sœurs. Rand foudroya du regard tous les gens qui l'entouraient, y compris Perrine, quand elle fit mine d'ouvrir la bouche. Puis il tapota la main de sa compagne. Dans le camp, tout un chacun observait la scène. Les hommes de Deux-Rivières, les Aes Sedai prisonnières, les Achamans. Mais quelques Aiels seulement étaient assez prêts pour entendre. Même s'ils le vénéraient, les gens avaient tendance à rester loin de Rand quand c'était possible.
« Les matriarches se chargeront des prisonnières !»
trancha enfin le dragon réincarné. Une senteur de satisfaction monta de Sorilea, si forte que Perrine se frotta vigoureusement le nez. Taïm secoua la tête, exaspéré, mais Rand le contourna sans le laisser parler. Un pouce glissé dans la boucle de sa ceinture en forme de dragon, il la serrait si fort que ses phalanges avaient blanchi. Son autre main s'était refermée sur la poignée de son épée, enveloppée de cuir noir de sanglier.
« Les Achamans sont censés s'entraîner et recruter, pas jouer les geôliers. Surtout avec des Aes Sedai. »
Tous les poils de Perrine se hérissèrent lorsqu'il reconnut l'odeur de Rand dès que ses yeux se posaient sur Taïm. De la haine mêlée de peur. Par la lumière, il fallait qu'il reste sain d'esprit.
« À tes ordres, Seigneur Dragon, » fit Taïm en inclinant la tête sans conviction.
Mine glissa un regard anxieux à l'homme en veste noire, puis elle se rapprocha de Rand. Kiruna embaumait le soulagement. Après un dernier regard à Bera, elle se redressa de toute sa hauteur.
« Ces Aiels ont des qualités. Certaines auraient pu réussir très bien si elles étaient venues à la tour. Mais tu ne peux pas leur confier des Aes Sedai. C'est impensable. Bera et moi, nous... »
Rand leva une main et Kiruna se tut. Était-ce l'effet de son regard bleu-gris plus dur que la pierre? Ou était-ce le dragon enroulé autour de chacun de ses bras et particulièrement visible à cause de ses manches déchirées?
« M'as-tu juré allégeance, Kiruna ?»
L'Aes Sedai écarquilla les yeux, comme si elle venait de recevoir un coup dans l'estomac. Elle finit par acquiescer à contre-cœur, l'air aussi incrédule que la veille, quand elle s'était agenouillée près des puits, après les combats, pour jurer sur la lumière et sur son espoir de salut et de résurrection qu'elle obéirait au Seigneur Dragon et le servirait jusqu'à ce que l'ultime bataille ait eu lieu.